pas. Aujourd'hui, il y a des mouvements, voilà, particulièrement aux États-Unis, où on prend l'écriture et puis avec l'eschatologie, on en fait une arme politique. Mais bon, il s'agit de vécu spirituel, de l'écrit à une parole vivante. Si la parole n'est pas vivante dans nos vies, on est un peu mort. C'est bien quand voilà, la parole prend vie. Dans le monde oriental, la parole est quelque chose de solide, quelque chose de réel. Quand on fait une alliance, quand on scelle quelque chose avec une poignée de main et une parole, c'est un appui, c'est aussi solide que de la roche. Mais on démarre avec voilà, ce verset que tout le monde connaît, dans le psaume 119. Rassurez-vous, il y a 176 versets. On va pas les lire. On va en lire un. Voilà, c'est un poème à la parole. Et on lit le psaume 119, le verset 105, un verset très court. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Une lampe électrique. Sur votre smartphone, vous avez un bouton éclairage pour ouvrir votre porte le soir, ou voir voilà, dans différents endroits si vous en avez besoin. C'est pas direct, hein, il y a quand même un processus quand on ouvre l'écriture pour qu'elle devienne. Alors, qui est-ce qui a été à l'école du dimanche? Ah, Valentin, voilà. Alors, je sais pas si votre monitrice vous a appris le psaume 119, 105. Je n'ai pas retrouvé les accords, mais ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière, et une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Voilà, c'est le petit chant. Vous l'avez appris? Bah alors, vous êtes pas. Il faisait quoi là? C'est un classique. Il faut l'apprendre, il faut le connaître. Voilà, tout ce psaume est un poème à la parole de Dieu avec beaucoup de passages comme ça, sérieux. Parole et réalité. Quand la parole de Dieu, quand je la fais mienne, quand elle devient une dans ma vie, quand j'accepte la parole de Dieu dans mon esprit, quand je la proclame, quand je la médite, il y a quelque chose de l'ordre de l'indicible qui se passe, de spirituel, parfois de surnaturel. Il est dit de Jésus qu'il avait une parole, il annonçait la parole avec autorité. Dans la barque, il a menacé le vent, les nuages, la pluie, la tempête. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Toute l'énergie que l'on a aujourd'hui vient de cette première parole créatrice. J'aurais aimé être là. Il a dit qu'il y avait des êtres célestes. Et le Fils de Dieu qui était là quand Dieu, au travers de son Fils, par la parole de son Fils, a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Cette parole créatrice et le monde tel qu'on le voit, tel qu'on le vit, est présent dans nos vies. Psaume 33, le verset 6 à 11. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. L'Éternel renverse le dessein des nations, il anéantit les projets des peuples, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. La parole de Dieu est quelque chose d'extraordinaire qu'on ne peut pas prendre à la légère. Il dit, et la chose arrive, il y a un temps de silence. Et puis Dieu parle, et il se passe quelque chose. Ce n'est pas toujours des grands discours. Je dis souvent, les paroles les plus personnelles que j'ai reçues, c'est des paroles courtes. Souvent, c'était un avertissement, que je ne fasse pas de bêtises. J'aurais une tendance à faire des bêtises. Donc, d'avoir une parole incisive comme ça... Quand j'étais au collège, au cours d'un culte, il s'est passé une chose que j'aimais pas, puis j'ai failli me lever et partir fâché. Et puis là, il y a eu juste une parole assis. Il n'y a pas très longtemps, 13 ans, réunion d'agent de maîtrise à mon travail un vendredi matin, et puis là on me dit, tu vas changer de secteur. De tel endroit, tu vas aller à tel endroit. J'ai bondi comme un diable. Et puis, j'ai râlé pendant un quart d'heure. J'ai sorti tous mes arguments. Mon projet professionnel est là. Je ne veux pas changer. Puis à un moment donné, le Seigneur m'a dit, tais-toi, assieds-toi. Et puis tu dis que tu vas changer. J'ai fait... Puis finalement, c'était une bonne décision. J'ai fini mes 3 ans avant la retraite un peu plus calme. Au lieu de me démener comme je faisais avant... Une parole vivante n'est pas toujours un discours. Ça peut être quelque chose de percutant, d'incisif. Encore juste un petit témoignage, pas de moi, mais de notre prof d'hébreu, puis prof des cours que je préférais. Il raconte comment il a reçu sa vocation de prophète. Il était à Jérusalem. Et puis, il devait prendre un bus pour une réunion importante. Puis là, il entend une voix qui lui dit « Cours !» Il s'est mis à courir. Il a eu son bus. S'il n'avait pas couru, il arrête. Puis là, il s'est rendu compte de ce que c'était que l'inspiration. Comment est-ce que Dieu peut ? Puis à partir de là, c'est un homme qui avait un niveau d'inspiration. Il fait partie des 10 personnes que j'ai rencontrées qui... Voilà, qui avait quelque chose comme ça d'extraordinaire. Il dit, la chose arrive, il ordonne, et elle existe, Dieu renverse. Je vous relis ce verset, hein, surtout dans les temps que l'on vit en ce moment. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Prions pour que tous les projets les plus fous dans ce monde soit renversé d'une manière ou d'une autre. Et que Jésus revienne parfois dans ces temps troublés, on ne sait pas très bien comment prier. Ça ne sert à rien de s'énerver après. Simplement proclamer, Seigneur, voilà, toi tu peux renverser. Tu peux amener des dirigeants à te connaître. Il a touché l'esprit de Cyrus, de Nebuchadnezzar, de plein de gens qui étaient au fait de leur gloire. Et puis il leur a dit... un petit peu d'humilité, et puis ça ira mieux. Ésaïe, chapitre 55. On va lire ensemble des textes classiques, hein, souvent, mais voilà, c'est bien de les relire, de l'écrit à une parole vivante. Ésaïe 55, les versets 8 à 11, car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie, vous serez conduits en paix. C'est pas forcément que la parole qui sort de l'écriture. Il faut que l'écriture sorte de notre bouche pour qu'elle devienne parole de Dieu. C'est un miracle, c'est quelque chose de spirituel, de surnaturel. C'est pas la méthode Coué. C'est pas parce que je vais répéter 100 fois « Seigneur, tu es mon appui, Seigneur, tu es mon appui » à la mode indienne, hein. Les mantras, que ça va changer quelque chose. Mais simplement, voilà, paraphraser, prononcer, confesser l'écriture. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. De l'écrit à une parole vivante. Mais il faut qu'il y ait une transformation, il faut qu'il y ait un processus de validation, je ne sais pas. Pour moi, c'est toujours un phénomène mystérieux. Alors, j'en parle comme ça, mais voilà. Par quel mécanisme Dieu fait que la parole écrite, tout d'un coup, devienne dans ma vie une parole vivante, un appui, quelque chose sur lequel je peux appuyer ma vie spirituelle qui la conduit, qui la dirige. Un texte dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, peut-être là on a un petit peu de réponse. 2 Corinthiens 3, 1 à 8. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ? Avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part ? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, sur des tables, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire était passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ? Il faut que l'écrit passe par l'Esprit et que l'écriture devienne une lettre vivante au milieu de nous. L'Évangile, c'est ça. C'est une lettre vivante de Dieu, non pas écrite sur que du papier. Je ne suis pas bibliolâtre, même si j'aime bien ma Bible. Très longtemps, j'ai connu un pasteur qui priait pour des guérisons internes, des délivrances. Pour moi, il avait une habitude, voilà, que je n'aime pas trop. Il prenait sa Bible, il tapait sur la tête des gens, et puis il disait au nom du Seigneur, au nom de Jésus, bon. Pas forcément obligé de faire ça. La parole de Dieu, elle est libre. Elle est dans nos cœurs, elle est dans notre bouche, elle est sur nos lèvres. C'est une parole vivante, c'est pas le livre en lui-même. Ça, je dis de l'écrit à la parole vivante. Il faut qu'il y ait un médiateur, il faut qu'il y ait entre deux, il faut que les engrenages s'emboîtent et puis il faut que le moteur tourne et que les choses avancent. L'embrayage, c'est l'esprit. Comment est-ce que je laisse l'esprit m'accompagner dans ma lecture? Justement, encore faut-il qu'au quotidien, que je prenne l'écriture au sérieux, que je m'arrête et que je structure ma lecture de l'écriture. Disciple, c'est un peu ça. Alors ce matin, il y a eu une belle parole sur la religiosité. Pendant des mois au collège, alors comme tous les bons étudiants, ils disaient, voilà, je lis un chapitre dans le dans l'Ancien Testament, je lis un chapitre dans les prophètes, je lis un chapitre dans les psaumes, je lis un chapitre dans les évangiles, et je lis un chapitre dans les épîtres. Et puis au bout de 10 jours, on a 50 versets de retard, et puis en fait, on n'arrive pas à rattraper, et puis on se dit, bon, finalement, voilà, il faut adapter son temps de culte quotidien à nos capacités. Il vaut mieux lire un verset et qu'il devienne parole vivante que d'essayer de... Alors, j'avais une pochette avec... J'ai essayé toutes les méthodes. J'en ai essayé un paquet. Hein. 3 chapitres, 5 chapitres, 8 chapitres. Alors avec 8 chapitres, à un moment donné, on est largué. Après, j'avais une boîte avec des pastels, des crayons de couleur, et puis... chaque jour, les versets qui me... Donc j'ai une Bible qui est colorée, mais je fais ça pendant des mois et des mois. En lisant le témoignage de Sébastien Camp, tout à la fin de son livre, je suis rendu, il raconte un petit peu sa vie, hein, 20 ans de ministère, et puis il dit c'est seulement dans ces dernières années qu'il a repris le courage de lire toute l'écriture. Il n'avait jamais lu toute l'écriture de A jusqu'à Z, d'un bout à l'autre. Comment l'Esprit Saint va passer de l'écrit à une parole vivante si je n'ai pas un usage régulier de l'écriture? Comment est-ce que quand j'aurai besoin d'armes de combat, quand j'aurai besoin de nourriture, comment l'écriture peut se transformer en nourriture si je ne mémorise pas l'écriture? La parole est féconde, elle germe. Hébreux chapitre 4, verset 12. On le reprendra quand on parlera des versets armes, mais on le lit quand même parce que c'est un texte important concernant notre compréhension de l'écriture. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et muelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ce que je vous ai souvent, Dieu envoie dans, en tout cas, enfin, Dieu envoie dans ma vie des paroles courtes et percutantes qui tranchaient entre moi ce que je voulais et ce que Dieu voulait. C'est pas toujours facile. Parce qu'après, on se dit, waouh, c'est quoi? Ça vient de moi, c'est l'ennemi, c'est... Après, on apprend à faire le distinguo et discerner quand c'est un avertissement, un conseil. Parfois, j'ai eu des conseils judicieux, des conseils parfois négatifs. Hein. Fais pas ça. Fais autrement. C'est être accompagné dans notre quotidien, dans toute notre marche spirituelle, par une parole vivante, car la parole de Dieu est vivante et oui, efficace. Parfois, elle est en opposition à ce que l'on veut, à ce que l'on aime, à ce que l'on souhaite. C'est pour la bonne cause. Elle est décrite de plusieurs manières. La parole de Dieu est droite, elle est éprouvée, elle est vivante, elle est pure. C'est la vérité. Elle court avec vitesse. Waouh ! Plus vite qu'un missile. Instantané. Comme la physique quantique, elle peut être à un endroit et puis à un autre en même temps. Elle est comme un feu, comme une lampe, douce comme du miel. Douce dans ma bouche comme du miel. C'est un prophète qui dit ça. Mais amère dans les entrailles, parce que parfois on porte des messages, des paroles qui sont... Elle demeure éternellement, elle est pleine de grâce, pleine d'esprit, pleine de vie. Une parole de réconciliation entre nous et Dieu, entre nous. Des versets manent, des versets qui nourrissent, qui enseignent, qui structurent notre foi. Il y a les textes manent, c'est les textes percutants au quotidien. On lit dans Exode au chapitre 16 quelques infos sur la manne. Exode 16, les versets 4 et 5. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain des hauts des cieux. Le peuple sortira, il en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve, que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'il ramassera jour par jour. » Parfois, on peut recevoir une double parole vivante, une double dose. C'est super. Il y a un distributeur de paroles. Et puis, quand on le secoue, le samedi, on en a pour deux jours. Le samedi et le dimanche. Une parole d'inspiration à partager pendant le culte. On lit dans le même chapitre les versets 14 et 15. Quand la rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, comme des grains. Quelque chose de menu, comme de la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent, se dirent l'un à l'autre, « C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cela ?» Ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Israël a été nourri pendant 40 ans dans le désert. Donc quand bien même, nous serions 40 ans dans le désert, ce qui est fort improbable, mais on peut compter sur une parole de Dieu. Une parole qui nourrit, qui enseigne, qui conduit, qui dirige. Alléluia. Le verset 21-22, tous les matins, chacun ramasse. Je voulais lire 18. On mesurait ensuite avec la mesure l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop. Celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers, cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Quand cela venait, la chaleur du soleil, cela fondait. Le sixième jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture. Deux homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Envie des miracles quand on lit l'Écriture. Quelque chose de spirituel, de surnaturel. Dieu est capable de nous donner une parole au quotidien et parfois il peut nous en donner le double. On poursuit sur le même thème. L'apôtre Jean, au chapitre 6 de son évangile, nous parle un petit peu de ce miracle par rapport à la Sainte Cène. On va se nourrir, c'est symbolique, hein, du corps, du sang de Jésus, mais voilà, on se nourrit de jus de raisin et puis de pain. Mais c'est parce que nous sommes ensemble, parce que l'on partage la parole de Dieu et que l'Esprit nous est donné que ce repas du Seigneur est validé. Jean chapitre 6, le verset 31, 32, 33, 34, 35. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Ils lui dirent, Seigneur, voilà, je vais trop vite, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel, qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Verset 48, je suis le pain de vie. Verset 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. C'est un repas symbolique, mais il préfigure, il est l'illustration du fait de se nourrir de l'Écriture au quotidien. Prendre le temps de se réjouir, de se régaler, de se nourrir de l'Écriture. Alors chacun peut-être les textes qu'il préfère, mais que ce soit dans les psaumes, dans les proverbes, dans les... toute l'Écriture, peut-être il y a une épître que vous aimez plus que d'autres, mais avoir quand même le courage de lire, sinon étudier, travailler tous les textes de l'Écriture, avoir quelques outils, une concordance, un dictionnaire biblique, voilà des choses qui aident à la Bible déchiffrée. Enfin, là, aujourd'hui, en Occident, nos outils sont nombreux, tous ne sont pas très cher, et donc c'est bien d'avancer dans ce sens-là. Même les prophètes l'avaient compris. Prophète Jérémie, au chapitre 15. Jérémie 15, 16. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. J'ai recueilli tes paroles. Est-ce que vous vous rappelez de quelqu'un qui a fait ça? Marie. Quand l'ange lui a annoncé ce qu'elle allait vivre, il dit, elle garda ses paroles, je pense qu'elle les a gardées jusqu'à la fin de sa vie. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées, elles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. J'ai une épouse, des filles, des petits-enfants qui font la joie et l'allégresse de mon cœur. Voilà, mais il y a quelque chose qui est encore plus fort, sinon plus précieux, c'est l'Écriture. Qu'elle devienne parole vivante. En ce moment, tous les matins, depuis 15-20 ans, il y a des livres que je reprends systématiquement. Je reprends tout à zéro. Ça, il y a l'eschatologie, là je reprends le livre du prophète Daniel. Je l'ai déjà travaillé depuis 50 ans, je ne sais combien de fois. Puis la semaine dernière, je me dis, tiens, je reprends tout, mais encore à zéro. Je fais des dessins, je dessine les visions, je fais des recherches, voilà, et puis je remplis des pages et des pages. Je dois faire 7, 8 ou 10e fois que je fais les choses. Puis j'essaie de comprendre. Je vous rassure, j'y comprends. Mon eschatologie, depuis 40 ans, 45 ans, est partie. Et puis, plus je la travaille, moins je comprends. Ça ne me dérange pas. Dans le livre d'Anne, il dit, voilà, à la fin, ceux qui sont intelligents comprendront. Et puis, il y aura un esprit de révélation. Voilà, puis le soir, dans mon lit, je dis, bah, Seigneur, je n'ai pas tout compris. Voilà, si à un moment donné, quelque chose peut... C'est pas faute de le travailler. Là, j'ai un gros bouquin qui vient de sortir sur le livre du prophète Daniel. Je dois en avoir 4 ou 5. Il n'y en a aucun qui est pareil. Mais celui-là, il donne toutes les théories, voilà, sur le temps de la fin, sur Et puis je me dis, bon, bah, alors, je recommence. Puis quand je lis Daniel, bah, je lis d'autres passages de l'écriture. Je lis l'Apocalypse, je lis ci, je lis ça. Et puis j'avance comme ça. Le livre du prophète Amos, il y a tellement de beaux textes. Alors, il y a des petits prophètes, là, ils sont compliqués. Amos, compliqué à trouver. Amos, chapitre 8. Plein de beaux textes dans le livre de Amos. Un de mes préférés, Amos 3:3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Marcher avec Jésus et dialoguer avec lui. Mais là, on est dans Amos, au chapitre 8. Et le verset 11. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain, la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. » C'est un peu dramatique, ils ne la trouveront pas, mais pouvoir la trouver. La faim et la soif de la parole de Dieu, de la parole écrite à une parole vivante, c'est une image, hein. Faim et soif. Mais c'est comment notre esprit peut avoir besoin de la parole de Dieu, besoin de son encouragement, besoin d'être accompagné. Juste le citer par le lire Deutéronome 8:3 ou Matthieu 4:3, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole écrite, non, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ne confondons pas ce qui est écrit avec de l'encre, la lettre, avec ce qui est une parole vivante de Dieu. Dans beaucoup de milieux chrétiens, on est très fondamentaliste. L'écriture, que l'écriture. Et puis on s'enferme dans une compréhension de l'écriture qui est stéréotypée. Si vous avez, je ne sais pas si vous regardez des émissions, des magazines, il y en avait un cette semaine, sur la 5 ou la 7, je ne sais plus, concernant les chrétiens évangéliques aux États-Unis. Prière pour l'Apocalypse. Aux États-Unis, 333 millions d'habitants, un tiers, 100 millions, sont chrétiens évangéliques ou catholiques. 10 millions adhèrent à des associations qui soutiennent Israël, qui donnent de l'argent aux colons pour qu'ils chassent les Palestiniens. Moi, je ne veux pas rentrer. Et toute une partie sont au Congrès, au Capitole, pour faire du lobbying et pensent qu'on est dans la période de Armageddon. Et prie pour qu'Israël se fâche avec tout le monde, tire partout, pour rater le retour de Jésus. Il y a toute une équipe de motards et un pasteur de motards qui sillonnent les États-Unis avec ce message. Le pasteur qui soutient, j'en parle librement, hein, le couple pastoral qui soutient Trump depuis 2017 est dans ce mouvement-là. On peut utiliser l'écrit, l'écriture de manière fondamentaliste, et puis on peut, sur un texte de l'écriture, dans ce magazine, il rappelait que deux, trois mouvements, les témoins de Jéhovah, les adventistes, avaient prédit le retour de Jésus pour telle date. 20 ans, 40 ans après. Ben, ça ne s'était pas passé, donc leur lecture, c'est pour ça, voilà, je lire l'écriture avec un esprit ouvert à l'esprit, et puis lire, relire. De l'écrit à une parole vivante, un processus d'incarnation. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Comment est-ce qu'une parole de Jésus peut habiter dans ma vie pleine de grâce et de vérité? Une parole pleine de grâce. Waouh! Ça, ça fait du bien. Celui qui juge chez Dieu, apprendre à mettre son jugement de côté, apprendre à accueillir, à aimer, sans mettre de pression. C'est ce que notre Père fait avec chacun d'entre nous. Hein. Il m'a accueilli avec tout mon bazar il y a 50 ans, puis en me disant, voilà, là tu as des possibilités de changement, prends le temps, et puis avance avec ce que tu es. Mais... on ne va pas prendre le temps, mais si vous avez le temps chez vous, vous pouvez lire le psaume 1, Josué 1, c'est « Heureux qui médite la loi du Seigneur et qui la serre dans son cœur, car il est comme un arbre près d'un courant d'eau qui donne du fruit. Qui se... Je suis un arbre planté près d'un courant d'eau. Et tous les jours, je prends une bouteille d'un litre, et il faut boire combien? Un litre et demi, trois litres par jour. Ce sont des images, hein, mais... voilà. La prochaine fois, dans quelques semaines, on fera les versets armes. C'est un autre aspect de la parole de Dieu, mais qui est aussi importante pour se défendre, pour... Étant donné qu'on est très nombreux, je vais vous demander, on va s'approcher, on va profiter pour partager.